Dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Ce rendez-vous mensuel que vous connaissez bien, dédié à l'histoire de Chartres, est possible grâce à la complicité des archéologues de la ville de Chartres. En effet, grâce aux découvertes et études archéologiques, l'histoire locale s'enrichit chaque jour d'un nouvel éclairage que nous apportent les archéologues. Alors aujourd'hui, je suis avec Delphine Capron. Bonjour Delphine.
Bonjour, bonjour à tous.
Delphine est spécialiste de la préhistoire au sein donc de la direction d'archéologie de la ville de Chartres. Delphine, vous êtes déjà intervenue dans l'émission, on s'est déjà rencontrés et vous nous aviez alors présenté votre métier de lithicienne, mais aussi les outils en pierre créés et utilisés par nos ancêtres.
Oui, c'est tout à fait ça. Je vous avais présenté l'outillage en pierre sur 2,4 millions d'années, c'est-à-dire la préhistoire pure et dure, puis ceux de la préhistoire récente.
Et aujourd'hui, justement, Delphine, on va réévoquer la préhistoire, mais de manière générale, car elle fait un peu l'actualité. Ce mardi, donc 19 décembre, à 20h30, il y a une conférence dans le cadre des Mardis de la Science au Pôle Scientifique Universitaire d'Eure-et-Loire, mais surtout le prochain numéro de la petite revue Archéo, qui est éditée par la ville de Chartres et la direction de l'archéologie, sont consacrés à ce thème. Et il y a en plus, c'est spécial cadeau de Noël, un livret-jeu pour les juniors de 8 à 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur pourquoi reparler de la préhistoire aujourd'hui?
Oui, car on voulait en fin de compte représenter la préhistoire et apporter quelques informations nouvelles, c'est-à-dire loin des clichés véhiculés par le cinéma ou la bande dessinée avec par exemple la famille Pierre à Feu ou Rahan, montrer comment l'archéologie depuis le 19e siècle a évolué. Donc pour reprendre les mots de mes collègues concepteurs de ces deux petits archéos, cette période correspond à la genèse de la jeunesse de l'humanité. Les archéologues découvrent chaque jour de nouvelles traces de nos lointains ancêtres. Cette remarque apparaît d'autant plus pertinente que l'Eure-et-Loire et l'agglomération chartraine constituent une zone riche en vestiges préhistoriques.
Alors ça, vous nous referez une petite présentation des différents sites, mais avant Delphine, puisque vous avez dit que c'était une période qu'on étudiait du coup depuis pas si longtemps que ça, depuis quand étudie-t-on la préhistoire?
Ah, ça c'est une bonne question et très intéressante. L'archéologie va commencer à naître dans les esprits au cours du XVIIIe siècle à travers les sciences naturelles, c'est-à-dire l'étude de la biologie, géologie, zoologie, botanique, médecine, paléontologie ou astronomie. Et en fin de compte, toutes ces données vont modifier nos connaissances. Et c'est dans cette perspective naturaliste nouvelle que les archéologues vont commencer à écrire le passé antéhistorique de l'homme. Antéhistorique de l'homme, c'est-à-dire qu'on imagine, on commence à avoir conscience qu'il y a eu une vie. Il s'est passé des choses avant l'apparition de l'homme. Donc, cette idée antéhistorique est très importante à retenir. Puis, c'est autour de 1859 que la préhistoire va s'affirmer comme un domaine de recherche nouveau et fécond. C'est-à-dire, c'est le moment où la théorie de Darwin de l'évolution s'impose. Les chercheurs de l'époque vont commencer à entrevoir la présence de fossiles humains avec ceux des animaux. Et la fin de ce siècle va contenir énormément de controverses. Parce que, pour les chercheurs, jusque-là, écrire l'histoire antéhistorique va devenir répondre à la question de la haute antiquité de l'homme. C'est-à-dire que les objets qu'on connaissait préhistoriques, les gravures, les peintures, tout ça était vu avant comme un peu des objets de curiosité. Mais maintenant, ils deviennent de vrais indices. Par exemple aussi pour les premiers fossiles de l'homme, ceux de Néandertal, qui ont été mis au jour au milieu du 19e siècle, il a fallu un siècle pour les considérer comme une espèce humaine à part entière. En fin de compte, c'est toute une démarche intellectuelle qui est liée au progrès des méthodes de datation, de l'anthropologie biologique et aux études techniques de l'outillage.
Donc là, en fait, on voit et on étudie la préhistoire de manière scientifique, mais à partir donc du 19e, où c'est une science récente, mais Delphine, avant toute chose, qu'est-ce que la préhistoire ? Qu'est-ce qu'on appelle la préhistoire ?
Ah bah, la préhistoire est la longue aventure de l'humanité avant la naissance de l'écriture. C'est-à-dire qu'elle se situe entre l'apparition du premier individu du genre Homo, il y a 3 millions d'années, jusqu'à l'invention de l'écriture.
D'accord.
Et elle se divise entre la préhistoire, c'est-à-dire la chronologie préhistorique qui a été conçue et on va dire acceptée par le domaine scientifique au milieu du 19e par Gabriel de Mortillet, qui correspond au paléolithique inférieur, moyen, paléolithique supérieur. Puis on a le mésolithique, une période intermédiaire, et le néolithique qui est préhistoire récente et aussi la fin de la préhistoire où les chasseurs-cueilleurs deviennent des agriculteurs.
Alors on va revenir sur ce point parce que c'est important de nous faire un petit rappel chronologique de cette longue période historique en fait, puisqu'on débute donc il y a moins 3 millions d'années.
Oui. Donc le paléolithique inférieur, lui, débute il y a 4 millions d'années jusqu'à moins 100 000 ans avec les australopithèques. Puis, vers 2,7 millions d'années, la branche des hominidés, dont l'Homo erectus et l'Homo habilis.
Les premiers hommes, donc, entre guillemets, datent de 2,7 millions d'années.
Exactement. Et ont inventé, en outillage, le galet aménagé appelé chopper. Puis, vers 1,2 millions d'années, Homo habilis et Néandertal sont présents et correspondent au paléolithique moyen.
Et là, vous nous avez parlé du chopper, cet outillage donc d'Homo habilis. Néandertal, lui, utilise aussi cet outillage ?
Non. L'outil emblématique de Néandertal est le biface, que tout le monde connaît. Et puis, après, autour de moins 40 000 ans, apparaît Homo sapiens ou Cro-Magnon, c'est-à-dire nous.
Et là, pareil, est-ce qu'il y a une évolution spécifique que vous nous signalez en tant que lithicienne ?
En tant que lithicienne, je vous dirais que nous, donc Cro-Magnon, nous avons inventé tout ce qui est les outils sur lame. Les flèches, les pointes de flèches, les lames, les grattoirs, plein d'outils.
Plein d'autres outils qu'on va avoir le temps de revoir un peu tout au cours de cette émission. Et après, vous nous aviez cité aussi le mésolithique.
Alors, le mésolithique est vraiment une période courte qui se situe entre moins 12 000 et moins 6 000. C'est une période où il y a un changement climatique et donc l'homme va beaucoup chasser les petits animaux. Donc on retrouve beaucoup de pointes de flèches ou de petits outillages. À la fin de cette période vient le néolithique et on va dire les débuts de l'agriculture où vont apparaître les outillages en pierre pour travailler la terre, comme les tranchées, les herminettes, les petits pics.
Qui sont vraiment les outils de nos premiers agriculteurs, en fait.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Delphine, merci pour ce rappel chronologique et tous ces indices sur ces outils. Mais juste à Chartres et alentour, combien de sites préhistoriques ont été observés ou répertoriés ?
Alors aujourd'hui, dans le département, au moins 36 sites sont en lien avec une occupation préhistorique et ont été étudiés. Ils donnent une image dense des installations préhistoriques dans notre département. Si la période du néolithique domine, elle correspond à une phase d'expansion démographique et que peu de zones favorables à la conservation des sites plus anciens ont été préservées de l'érosion.
Delphine, est-ce que vous pouvez juste nous préciser quelques lieux où auraient été découvertes donc toutes ces occupations préhistoriques ?
Oui, bien sûr. Donc, les occupations préhistoriques et plus précisément néolithiques, car elles sont mieux conservées, se situent et ont été étudiées sur les plateaux. Donc, il y a le plateau principal qui correspond à l'emplacement de la cathédrale vers Minières. Nous avons aussi le plateau nord-est qui regroupe Champfol, Archevilliers. Puis, il y a aussi le plateau nord-ouest, le plateau de Rechèvre. En fin de compte, sur tous ces plateaux, nous avons retrouvé de l'occupation néolithique. Pour rappel, pour le paléolithique, un biface a été retrouvé à Saint-Chéron. Puis, il y a le site très connu du Baluisant. À Gélinville, nous avons aussi retrouvé des traces du paléolithique. Et le troisième site est celui du plateau nord-est, où il n'y a que quelques indices.
Alors, plateau nord-est, hein, on le redéfinira tout à l'heure, c'est le lieu de l'aérodrome de la ville de Chartres.
Alors, moi, j'aimerais bien revenir dans le temps et revenir au 19e siècle avec les premiers témoignages écrits d'une occupation néolithique en Eure-et-Loire qui sont consignés dans l'article de Monsieur Franchet, « Le néolithique en Beauce » dans le bulletin de la Société préhistorique de France, tome 16, numéro 6 de 1919.
Quelle précision, merci Delphine.
Donc, il y mentionne des stations de la période campinienne, c'est-à-dire néolithique, sur les communes de Champfol, Saint-Pré, Lèves, Mainvilliers, Lucé, Luisan, Morançais, Nogent-le-Fay, et maintenant qu'il qualifie Chartres et ses environs immédiats paraissent avoir été un grand centre industriel. Il a aussi répertorié deux phases du néolithique caractérisées par les tranchets, les pics, les scies et les haches polies.
Merci Delphine pour ce petit panorama des sites préhistoriques déjà observés. On va du coup dans l'émission revenir et nous attarder sur trois découvertes majeures qui illustrent cette longue période qu'est la préhistoire. Les mammouths aux abords de Chartres, des nouvelles de Néandertal, et puis les dernières découvertes néolithiques de cet été. Alors Delphine, on rentre dans le vif de notre sujet. Revenons au paléolithique, cette période donc la plus ancienne, comprise pour l'Europe entre moins 500 000 et moins 100 000 ans. Quels sont les témoignages ou indices près de Chartres ?
Alors, le site qui est connu depuis très 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 longtemps est le site de Saint-Pré, qui correspond à une découverte fortuite lors de l'aménagement ferroviaire.
De la ligne Paris-Chartres ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est un site qui se situe dans une sablière et ce site a livré tout un bestiaire fossile. La faune fossile du site de Saint-Pré compte 11 espèces de mammifères de grande taille. On y trouve des mammouths, des rhinocéros, des hippopotames, du bison et quelques espèces de cervidés. Donc ce site a été daté de 900 000 avant et constitue tout un ensemble, un assemblage de la faune du paléolithique inférieur.
Donc il y a moins 100 000 ans, 900 000 ans.
Oui.
Et est-ce que à cette époque, vous nous rappelez s'il y a des traces humaines associées ou non à ce bestiaire ?
Voilà, donc à ce bestiaire ont été retrouvés des silex taillés et brûlés, datés en fin de compte qui sont de Homo erectus.
Ce qui pousse sa présence sur le territoire, cette cohabitation.
Donc ça veut dire que les mammifères, en fin de compte, cette découverte met en avant que ces mammifères-là, toute cette faune, dont trois nouveaux animaux ont été reconnus, c'est-à-dire le mammouth, un élan et un castor, ont côtoyé les premiers hommes. De cet ensemble daté du paléolithique inférieur, on montre bien que l'homme les a côtoyés. Et ceci, dans le domaine scientifique, va énormément faire parler. Car je vous ai parlé de l'histoire antédiluvienne de l'homme et au 19e, répondre à la question de la haute antiquité. Et en fin de compte, il va y avoir tout un débat scientifique entre ceux qui vont dire oui, l'homme existait déjà à côtoyer ces mammifères et ceux qui ne peuvent pas envisager que l'homme ait pu apparaître, on va dire, à cette époque qui correspond à l'ère tertiaire.
Parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, effectivement, les croyances et les avancées scientifiques peuvent encore laisser supposer des controverses qu'on n'imaginerait plus maintenant.
Voilà. C'est-à-dire que cette découverte de fragments fossiles par Monsieur de Boisvillette ne pouvait pas imaginer les controverses qui allaient se développer autour de cette trouvaille. Donc coexistence de l'homme avec une faune rapportée de l'ère tertiaire, soit 1,60 million d'années. Donc ça a fait couler énormément d'encre pour la deuxième moitié du 19e siècle.
Là, vous nous parliez de cette controverse, la coexistence de l'homme avec une faune rapportée au tertiaire, ça d'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres controverses liées à cette découverte ?
On va dire que la collection de Saint-Pré a une énorme importance déjà par le fait du nombre d'espèces retrouvées, qui signifie qu'elles ont vécu ensemble.
Au même
d'accord
moment.
Et puis, c'est la datation de l'âge tertiaire déterminée par la stratigraphie par les géologues. D'accord. Donc, ça fait vraiment reculer la présence d'animaux à la fin de l'âge tertiaire et de l'homme. Donc aujourd'hui, le site de Saint-Pré reste un site d'intérêt international.
Et on va faire une petite pause musicale au cours de notre émission Histoire et Mémoire, après la découverte donc, des mammouths, aujourd'hui mondialement connus comme tu viens de le souligner Delphine, nous irons sur les traces de Néandertal.
It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all I needed love. Saw the details fall away. The shaking when nothing is giving. Just pictures of Jap girls and synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick with this light that is glowing. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's pie, hitting a all-time low.
De retour dans votre émission Histoire et Mémoire, consacrée aujourd'hui à la longue période qu'est la préhistoire. Avec Delphine Capron, la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, nous allons maintenant à la rencontre d'un homme méconnu. Delphine, vous vouliez nous représenter Néandertal.
Oui, je voulais vous représenter les avancées de la recherche sur l'homme de Néandertal. Notre cousin, depuis quelques décennies, commence à dévoiler un nouveau visage, différent de celui du siècle dernier, et nous a côtoyé pour rappel entre 40 000 et 30 000 ans avant.
Anatomiquement, comment se présente Néandertal grâce à ces nouvelles découvertes? En quoi est-il différent de Sapiens sapiens que nous sommes?
Alors les différences entre Néandertal et nous sont d'abord d'ordre anatomique. Il a une charpente osseuse robuste, une cage thoracique plus large, un crâne plus volumineux, un visage plus large, un front fuyant et un menton absent. Sur le plan génétique, on est très proche, de l'ordre de quelques milliers de gènes d'écart. C'est-à-dire qu'on a entre 1 et 4% de gènes en commun, donc un métissage entre nous. Et cette découverte date de 2010.
Donc du coup, il y a un petit peu de Néandertal en nous?
Oui, tout à fait.
Du fait qu'il se soit côtoyé, fréquenté? Oui. Il y a eu des couples Néandertal-Cro-Magnon?
Oui.
Eh bien, merci Delphine pour cette précision.
De rien.
Mais comment vivait-il donc du coup cet homme de Néandertal? Qui est-il plus précisément?
Alors, c'est un homme qui est nomade, il se déplace. Il s'est taillé le silex en série, c'est-à-dire qu'il a une conception très cognitive. D'un rognon de silex, il est capable de produire en série, on va dire, un même support pour un outil. L'homme de Néandertal maîtrise aussi le feu, il connaît le travail du bois, il sait fabriquer de la colle à base de résine et d'écorce de bouleau. Il récupère aussi des matériaux pour assembler d'autres objets. On sait qu'il avait la parole et cet homme, en fin de compte, cet homme de Néandertal possède une pensée symbolique.
C'est-à-dire ?
Symbolique, c'est-à-dire que nous avons des traces de l'homme de Néandertal qui est rentré dans des grottes Alors, on ne sait pas exactement pourquoi faire, mais en tout cas, cet homme-là est entré dans des grottes sombres pour y faire quelque chose. Donc, ce quelque chose, nous, on ne peut pas répondre. Hein, c'est trop loin. On n'a pas
les éléments, les indices.
C'est aussi culturellement un homme qui va enterrer ses semblables en apportant le même geste, c'est-à-dire que les sépultures de Néandertal, qu'elles soient celles d'adultes, d'enfants ou de personnes ayant un handicap, comme être aveugle ou un handicap physique autre, on va dire les articulations coincées, tout... ces semblables sont enterrés avec les mêmes gestes rituels. Donc, il ne fait pas de distinction. Et on dit que l'homme de Néandertal a une pensée symbolique. C'est lui aussi qui est à l'origine, on va dire, les premières mains négatives datent de l'époque de Néandertal.
Les traces de mains sur les parois de grotte datent de Néandertal.
Oui.
D'accord. Et aussi, vous me disiez en préparant l'émission que, heureusement qu'on avait un peu de Néandertal en nous, car c'était quand même un être, du coup, alors socialement et avec une notion de groupe qui faisait que c'était un être très stable, en fait.
Voilà. Et en fin de compte, en ce moment, les dernières recherches en cours sont sur la recherche de l'expression des gènes. Car donc, on a évidemment un pot commun, on va dire, mais la seule distinction entre nous et Néandertal est sur l'expression des gènes, c'est-à-dire la caractéristique de maladie, qu'elle soit pathologique ou psychologique. Et ça, ce sont des recherches qui sont en cours.
D'accord. Et comment a-t-on eu des traces de son passage près de Chartres? Quels sont les indices que vous avez retrouvés?
Alors, les sites du passage de Néandertal sur Chartres sont, pour le plus ancien, le site du Bas-Luisant, dont un article d'Hélène Gemma, qui est très bien, que l'on peut retrouver dans la revue archéologique Centre. Il y a aussi le site de Gélinville, qui a livré une occupation de Néandertal, donc du paléolithique moyen. Et pour l'instant, sur le plateau nord-est, nous n'avons que quelques indices du passage. On sait qu'il est passé, mais on ne sait pas s'il s'est arrêté.
Delphine, sur le site de Gélinville, par exemple, quels sont les outils ou traces que vous avez découverts?
Alors, sur le site de Gélinville, nous avons retrouvé plus d'une centaine de pièces taillées par l'homme de Néandertal. Malheureusement, ces pièces-là ne sont pas en position primaire, mais secondaire. Ça veut dire qu'elles ont un peu bougé avec le temps. Et dans cet outillage-là, évidemment, nous avons retrouvé des bifaces et des pièces présentant la même technique de taille.
Et sur le plateau nord-est, donc l'ancien aérodrome?
Alors, sur ce site, pour l'instant, nous avons que quelques pièces. Elles correspondent juste à trois pièces.
Vraiment des indices ténus.
Voilà, qui sont vraiment des indices.
Et qui sont ?
Des pointes de flèches.
Merci Delphine pour ces nouvelles informations sur Néandertal, donc qui était notre cousin, on peut dire ça ou pas ?
Oui, c'est notre cousin.
Notre cousin. Et nous rappeler que nous avons tous quelque chose de Néandertal en nous. Nous marquons une nouvelle petite pause en musique avant de poursuivre notre émission Histoire et Mémoire. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
sits on America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads, Rule Britannia is out of bounds.
Avec Delphine Capron, archéologue de la ville de Chartres, nous redécouvrons ensemble la préhistoire au sein de votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Delphine, vous vouliez partager avec nous une toute récente découverte qui nous emmène il y a moins 4000 ans environ.
Oui, je voulais vous parler de la fouille qu'il y a eu cet été, rue du Bourgneuf. Donc ce site a livré des indices d'occupation du néolithique.
Il y a à peu près 4000 ans, c'est
oui,
ça ?
Oui, il y a entre 4500 à moins 3000 ans avant JC.
Delphine, quels sont les éléments que vous avez retrouvés donc, du coup, sur ce site du Bourgneuf ?
Alors, sur ce site du Bourgneuf, qui appartient au quartier Saint-Maurice, nous avons dégagé une maison circulaire qui semble, donc pour l'instant, hein, toutes les études sont en cours, mais cette maison semble être la même qui est reconstituée au jardin de la préhistoire,
à près d'Ono,
Ono, exactement. Donc cette maison circulaire était accompagnée de trois fours culinaires qui ressemblaient à des fours à pizza et des fosses dépotoirs. Pour l'instant, on sait qu'une fosse est plutôt, de par son assemblage, datée de moins 4005 avant Jésus-Christ, donc de la fin du néolithique ancien. Les fours sont en cours de datation. Mais quoi qu'il en soit, eux sont beaucoup plus récents que la maison. D'accord. Mais
tout ça devait quand même coexister ou être utilisé à un moment donné sur une période
On va
commune.
Dire que l'homme a occupé cet emplacement de moins 4005 jusqu'à moins 3000. Et les datations permettront de dire
d'affiner.
Si les fours sont contemporains de la maison.
D'accord. Mais cette découverte néolithique, Delphine, elle fait écho à celle qu'on avait déjà évoquée dans notre précédente émission sur l'ancien taxiway de l'aérodrome, ce qu'on appelle le fameux plateau nord-est.
Oui, tout à fait. En fin de compte, sur ces deux sites, nous avons une occupation domestique, c'est-à-dire que les gens sont venus s'installer, ont fait leur maison, y ont travaillé, ont cultivé leur terre, y ont vécu. Donc,
d'accord.
En fin de compte, tous ces indices... Il y a eu exactement les mêmes études pour l'emplacement de Beaulieu. Toutes ces études montrent que les trois plateaux principaux de Chartres pour le néolithique présentent en fin de compte une histoire pérenne. C'est-à-dire que les hommes sont venus, y sont restés et y ont vécu.
Chartres était déjà une ville, entre guillemets, ou un territoire attractif à cette époque-là.
On va dire que c'était un territoire attractif et ils sont bien présents.
La boucle est quasi bouclée. On a quand même, grâce à vous Delphine, traversé près d'un million d'années, hein, avec trois illustrations majeures. Je rappelle les mammouths de la faune de Saint-Pré, la présence de Néandertal et cette nouvelle occupation domestique du néolithique découverte cet été. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à réécouter l'émission. N'hésitez pas non plus à assister à la conférence des Mardis de la Science ce mardi soir à 20h30 au pôle universitaire. Et surtout, parcourez le prochain numéro de la revue Archéo, qui est édité donc par la ville de Chartres et la direction de l'archéologie, qui sont consacrés à ce thème. Nous nous retrouvons donc l'année prochaine, en 2018, pour de nouvelles découvertes archéologiques. Bonne fête de fin d'année à tous, à très bientôt.
Merci.